Bonjour et bienvenue à tous pour cette table ronde sur les premiers pas de l'écriture. Nous avons aujourd'hui avec nous donc Mathieu Rivero qui a édité Hors et demi chez les Moutons Éthiques donc, cette année. Nous avons Claire Cross qui a édité Les Neiges de l'Éternel aussi cette année. Et enfin, Mélanie Fazi, alors votre premier roman date de plus longtemps, je pense.
2003, le premier roman.
Ouais, voilà, et qui donc a publié les Jardin du silence l'année dernière. Alors, donc aujourd'hui nous allons un petit peu explorer justement vos débuts dans l'écriture, un petit peu vos démarches, ce qui vous a amené à écrire, à publier. Donc la première question paraît évidente, quand est-ce que vous avez commencé à écrire véritablement?
Il y a plusieurs réponses à ça. J'ai commencé vraiment à écrire sérieusement et de manière continue à l'âge de 17 ans. Mais j'ai eu des périodes depuis l'enfance où soit je passais par le dessin, l'écriture, je tâtonnais un peu de tout. Donc j'ai plus ou moins écrit des histoires, inventé des choses et créé d'une manière ou d'une autre depuis aussi longtemps que je sais bien écrire. Mais je me suis mise vraiment sérieusement à 17 ans et à un moment j'ai senti que c'était quelque chose que je voulais explorer. Et à partir de l'âge de 17 ans, ce qui fait une vingtaine d'années maintenant, donc ça commence à dater.
Alors, c'était à peu près la même chose pour moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, pas sérieusement, mais tous les textes, je les retrouvais il y a quelques mois, je me suis appris à la vie à l'heure de 10 ans. Mais j'ai commencé sérieusement.
Et après beaucoup de raisons qui se mélangent dans un contexte à un moment donné.
s'améliorer véritablement et apprendre du regard.
que ce soit sur Internet, des débats ou sur, par d'autres moyens.
Il y a une histoire de contexte qui est quelque chose qui a été une chance et une malchance à la fois, c'est que Internet existait mais n'était pas encore répandu comme. Quand j'ai connu Internet, j'avais déjà écrit mon premier texte publié, je pense. Vraiment, l'écriture, j'étais seule dans mon coin. Je pouvais échanger avec essentiellement avec mon cousin, avec ma famille, mais c'est tout. C'était vraiment quelque chose de très secret. Là, ça a été une malchance dans le sens où j'ai pas eu accès à. J'ai pas pu échanger avec d'autres personnes, soit qui avaient publié, soit qui écrivaient aussi, soit. Comme maintenant, on a accès vraiment à énormément de sources. Et ça a été une chance dans le sens où j'ai pas pu être influencée par des gens qui disaient il faut écrire telle ou telle chose, il faut. Parce que moi, j'ai débarqué dans un contexte où j'écrivais des nouvelles fantastiques sans savoir qu'ils ne publiaient pas ce moment-là. Et ça, pour moi, c'était une chance énorme parce que je me serais peut-être laissée décourager si des gens sur Internet me l'avaient dit. Donc pour moi, c'était une chance. J'ai fait un truc dans mon coin et après seulement j'ai eu accès à tout ça. Mais du coup, c'est vrai que dans mon apprentissage d'écriture, j'étais très isolée par rapport à aux générations actuelles qui justement peuvent se donner conseil, se lire mutuellement. C'est que j'arrive pas à savoir si ma démarche aurait été différente si j'avais eu accès à Internet. Et la question, c'est jamais posée en écriture.
Oui, pour Claire et Mathieu, vous avez vous évité il n'y a pas si longtemps ça, donc elle peut-être plus accès à ces données, à ces moyens. Est-ce que vous avez. Est-ce que c'est différemment ou un peu dans le genre des fois, un peu isolé?
Isolé, parce que à part ma famille, mes proches, par exemple, l'arrivée de l'éternel, j'ai intrigué les frères à venir pour Noël. Mais à part ça, j'ai très peu publié sur Internet. Alors, ce que j'ai publié sur Internet, ce n'est pas des écritures de fantasy, c'était des fictions. Quand j'avais 15 ou 16 ans. Alors, forcément, c'est pas du tout. Alors, ça m'a quand même énormément aidé à m'améliorer au niveau de l'écriture, puisque, évidemment, il y a des facteurs de côté, l'écriture en elle-même, la qualité de l'écriture n'était pas toujours le but, mais ça m'a quand même énormément aidé à m'améliorer. Pour ce qui est des lettres, par contre, c'est vrai que je n'ai jamais publié sur Internet et je n'ai jamais pensé à le faire. Pourquoi ? Je pense que je sais. Alors, vous allez dire que c'est un peu bête, mais je ne savais pas où le montrer. Montrer, sachant que c'était derrière des gens qui devaient être très compétents en métalecteur, mais que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu et je n'avais pas envie de dire oui, c'est nul, sans savoir que la personne derrière, oui, c'est ça se trouve, c'est quelqu'un qui dit ça à tout le monde et qui a envie de dire que c'est nul, etc. Et alors que ce n'est pas forcément le cas. Du coup, je ne sais pas si cette démarche de partager mes écrits sur Internet.
Moi, au cours de 2010, quand je me suis dit que j'allais commencer à publier des nouvelles, je me suis dit que si je voulais avoir une ambition pro, il fallait que j'acquière des compétences que je n'avais pas. Donc j'allais chercher sur Internet tout ce que je pouvais trouver. Et donc j'ai écrit des fois en deuxième édition. J'ai trouvé plein d'outils assez sympas et surtout beaucoup des liens. J'ai trouvé des liens vers les communautés en ligne. Et donc, il y a des boîtes d'outils assez fantastiques, il y a plein de sites qui se montrent pour donner des outils aux étudiants aujourd'hui. C'est super important. Par exemple, il y a Espace Publis qui a un site qui va récapituler pas mal de choses, de faire une compilation d'articles et de liens sur ces boîtes d'outils pour auteurs. Il y a des questions pratiques sur les droits, sur comment négocier son contrat, sur qu'est-ce que ça veut dire, l'identité. Puis il y a comment réussir une description, comment faire un personnage de vie, prendre un univers, un peu un univers.
Mais du coup, un peu pour remonter à ce que disait Jérémy tout à l'heure, est-ce que c'est pas justement s'imposer aussi une vision? Est-ce que l'écriture de dire comment faire, c'est ce qui va faire cela avec les nouveaux outils pour donner ce que vous permettez?
J'ai pas de réponse à ça vraiment, mais c'est une des questions que je me pose quand on passe tout ça, c'est qu'à la fois, il y a un apprentissage que j'ai fait toute seule et qui est des questions de simple bon sens qu'on apprend en écrivant, en lisant, etc. Peut-être que, mais certainement qu'il y a des gens que ça va aider de voir tout ça dans son temps. Je pense que si elle est un peu tranchée, ça peut avoir cet effet, mais mais en même temps, c'est une boîte à outils formidable à laquelle on a accès qui n'était pas accessible à l'époque. Donc, je sais pas, j'ai un peu de recul par rapport à ça, justement, parce que j'ai pas été dans cette situation.
Je vais faire un peu la même réponse que Mélanie. J'ai beaucoup écrit toute seule, sans aller voir comment faire ceci, comment faire un portrait, comment créer un personnage. Peut-être que ça m'aurait aidé et que j'aurais évolué plus rapidement, peut-être pas. D'un autre côté, c'est vrai que ça peut être super utile pour justement pour créer des personnages et pour arrêter de tomber dans les pièges, justement dans lesquels on tombe quand on écrit un premier roman. Évidemment, on n'a pas d'expérience. Certains vont écrire vient de rentrer dans un livre imaginaire il y a quelques semaines. Mon mari a dit qu'il écrivait son page tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut écrire son page tous les jours, déjà parce qu'on travaille à côté, parce qu'on étudie à côté, et parce que après, pendant, il faut avoir l'inspiration, l'imagination. Certains ont besoin de mûrir ce qu'ils écrivent pendant longtemps, d'autres au contraire vont écrire quelque chose et si ça va être fini, ils ne vont plus jamais retravailler. Donc tout ce qui c'est bien, je pense qu'on s'en inspire pour partir d'une base, pourquoi pas, pour s'améliorer. Après le processus principal, il va se faire en écrivant et selon chacun à son rythme.
Quelles ont été les premières difficultés auxquelles vous êtes heurté quand vous avez commencé à écrire? Et comment vous les avez surmontés?
Vaste question.
Je dirais que la première difficulté, c'est d'essayer de placer des textes qui ne sont pas très très bons, parce que le premier texte qu'on écrit n'est jamais très bon, et de ne pas comprendre à ce moment-là qu'il faut X années et X textes écrits pour atteindre le niveau. J'ai envie de dire, on est persuadé en débutant que le plus dur, ça va être de réussir à publier un texte. Et pour moi, ce qui est vraiment le plus difficile, c'est pas de réussir à trouver un éditeur, c'est d'attendre le moment où on sera assez bon pour qu'un texte puisse être placé. Et ça, c'est très très difficile quand on débute de réussir à se convaincre que ce texte-ci n'est pas bon, mais que dans X années, on va y arriver, mais que simplement, pour l'instant, ça y est pas. Moi, j'ai plus souvenir de ça que d'avoir buté sur la publication pour prendre vite. C'est réussir à atteindre ce niveau où ça y est,
on est passé à la remise des prix du tournoi 7-1-2-1. Duel va avoir lieu d'ici quelques minutes au fond de la zone plateau à côté de la lice. Il s'agit de la remise du prix du tournoi Seven Wonders Duel, une exclusivité sur le monde. Merci.
Alors, pour moi, ma première difficulté quand j'ai écrit, ça a été dans le matériel, donc j'avais pas mon moteur. Et comme on est habitué à aller sur les livres, c'est écrit en caractère imprimé. Ça a un impact sur la manière dont on écrit, parce que ça prend la même place, ça a la même place pour la même taille sur l'espace. Et en fait, moi j'ai écrit sur le cahier. Et j'ai mis un certain temps dans l'ordinateur, parce que sinon c'était l'ordinateur familial, avec les grosses touches, tout le monde allait, donc il fallait rester très longtemps. Alors, du coup, j'ai trouvé beaucoup, mais pourtant écrire sur papier, c'est quand même plus difficile de retravailler son texte. Enfin, pas de retravailler, mais disons d'avoir bien. Et une fois que j'ai eu mon ordinateur, j'ai eu l'impression pas de pouvoir écrire plus vite, mais d'améliorer plus vite, puisque par exemple sur une page de papier, la paragraphe n'a pas du tout la même taille que sur un vrai bouquin imprimé, du coup une description, etc. Et puis en fait, la description est trop, on fait 3 pages. Au contraire. Ensuite, ça a été aussi ma deuxième difficulté, ça a été de continuer à écrire. Comme Mélanie a dit, parfois on écrit et on n'arrive pas à se rendre compte que le texte n'est pas bon, que la base n'est pas bonne, qu'on est parti pour quelque chose qui aurait complètement changé. Par exemple, le premier cycle que j'ai écrit, j'ai passé des années dessus avant de me dire, oui, tiens, en fait, il faudra que je reparte de zéro tout simplement. Et en repartant de zéro, je suis repartie notamment sur le neige de l'éternel. Et qui m'a pris aussi beaucoup de temps à terminer.
Je crois que la difficulté principale que j'ai eue, c'est le moment où je commençais un roman. C'était mon deuxième roman. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne marche pas, je ne sais pas quoi. Je comprends pas. Et je ne comprenais pas pourquoi ça marchait. Pourquoi ça, jusqu'à ce moment-là, et vraiment, ça paraissait plus bon, ça paraissait pas intéressant. Et je ne savais pas pourquoi. Donc, effectivement, j'avais des choses à apprendre sur mon processus créatif et j'avais tout savoir-faire à gagner. Et du coup, ces projets, j'ai pas beaucoup de ces projets, c'est pas très agréable parce qu'on a travaillé pour moi, c'est pas bon, la plupart des choses, c'est un projet. Et j'ai un projet dans l'espoir, c'est pas bon. Thank you.
vous aviez des petits carnets, des dictionnaires, des livres en particulier qui vous aidaient à alimenter vos recherches.
Moi, j'ai jamais fait de recherche dans cette franchise, c'est l'histoire. Mes tout premiers textes ont été faits, bah, c'était avant que les ordinateurs soient aussi répandus que maintenant. Je dirais que mes premiers textes ont été écrits à encre bleue sur un certain nombre de Google. Après, sur machine à écrire électronique, et c'était pas pratique du tout. Mais l'ordinateur, bon, ça, c'est venu un peu après. Moi, il y avait une grosse différence quand je passais l'ordinateur au traitement de texte, parce qu'effectivement, comme disait Claire, ça avait une différence énorme pour ne serait-ce que déplacer un paragraphe. On fait ça en un clic, alors quand c'est écrit à la main, c'est grand chose. Sinon, j'ai vraiment pas grand chose à expliquer de plus que ça. Je travaille sur ordinateur avec des pages qui sont les feuillets calibrés, en fait. C'est un type de page qu'on utilise dans l'édition et qui est calibré à 1500 signes et qu'on utilise pour les manuscrits vendus aux éditeurs, que ce soit en écriture ou en traduction d'air. Je sais pas. Comme petit peut-être Internet si j'ai des choses à vérifier. Et avoir Internet à portée de main, comme de temps en temps, quand je travaille sur un projet, si des idées ou des phrases deviennent. Mais c'est vraiment tout, quoi. C'est simplement traitement de texte, rien de plus. Vraiment rien de plus que ça.
Pour ce qui est des outils aujourd'hui, traitement de texte aussi, là, je me trouve simplement qu'il est plus esthétique pour l'office. Parce que c'est tellement agréable, autant de m'en parler justement avec Mathieu, quand on recherche une information, de cliquer sur Google et de la trouver sans avoir à chercher pendant 3 heures dans une bibliothèque, même si, par exemple, pour les neiges, comme j'ai une grosse recherche sur le Japon, quand même, je suis tout aussi à une bibliothèque, parce que malheureusement sur Internet, on peut vérifier toutes les informations qu'on trouve. Ensuite, avant, j'écrivais beaucoup, dès que j'avais l'idée, j'écrivais à la main sur une feuille blanche, mais le problème, c'est que je perdais quasiment. Maintenant, ce que j'ai, c'est un petit application logicielle qui s'appelle Evernote et qui est donc sur mon portable, sur ma tablette. Là, je me réveille la nuit, j'ai une idée, je l'écris dessus. Et l'avantage, c'est que c'est relié avec les autres ordinateurs et comme ça, ils sont classés par projet, je ne les perds pas. Avant, sinon, j'écrivais en papier sur des gros cahiers que j'ai achetés. Je me souviens d'ailleurs que j'écrivais beaucoup en cours. Je prenais une plaque grillée, je l'ai appris en 4. Pour qu'on voit un petit bout de cette taille-là, à peu près. Et que le 3, quand il passe, il le voit que mon pauvre qui pense que ça, c'était mon pauvre aussi, et que ça, ça ne nous oublie pas. Et j'ai pas été pris d'ailleurs.
Ils ont quand même fait l'effort de regarder ce que je faisais. de manifester un intérêt très tôt. Je pense que ça a énormément joué dans le fait que j'ai continué. Et ensuite, dans le fait que je me suis soumettre des textes un peu plus tard, ce qui n'est pas évident. Et il y a une chose que j'en garde, c'est que un des principaux objectifs quand j'écris, c'est un objectif de clarté. Je veux que le texte soit compréhensible, qu'il soit clair, et qu'il puisse être lisible par n'importe qui, y compris quelqu'un qui n'a jamais lu le fantastique et qui pense ne pas aimer ça. Moi, c'est vraiment un objectif qui reste central dans ce que je fais. Je pense que ça vient de ça essentiellement. Et oui, sans doute que ça m'a énormément aidé dans le fait que j'ai insisté, que j'ai continué. Je sais que toujours, au moment où pas du tout été soutenu par la famille, c'est que
la famille. Donc, il va débuter à 18h, sont attendus sur le stand G. Merci.
Alors, moi, je réponds oui et non. Parce que oui, effectivement, le bouquin est sorti, la famille est super contente et je sais que c'est vrai. Par contre, dès que j'ai commencé à dire, tiens, j'aimerais être écrivain, le florentien, c'est pas un vrai métier, tu vas pas gagner ta vie avec ça.
Il y a une vision très très naïve des choses, donc dans les relations des personnages, des choses sur un plan beaucoup plus pratique, ce que j'ai appris à faire, bah, je dis souvent quand on apprend à écrire, il y a deux phases. Il y a une première où on apprend à développer. On apprend à développer des descriptions, des personnages, on apprend à donner davantage de détails. Et la phase suivante, qui est absolument nécessaire, après on apprend à couper. On apprend à garder tout ce qui est essentiel pour ne pas pondre une espèce de truc illisible et complètement lourdain. On apprend qu'au lieu de 10 détails, on va en garder 2, mais c'est les 2 qui vraiment ont frappé le lecteur. Je pense que je vais de plus en plus vers ça quand j'ai des textes récents. La différence est vraiment ça, c'est que j'ai appris à faire beaucoup plus concis, beaucoup plus. J'espère essayer de faire beaucoup plus percutant qu'à une époque où, enfin, quand on débute, on se regarde un petit peu écrire, même des fois. Et je le sens, moi, dans le rythme des phrases et dans le choix des détails, des choses comme ça. Pour moi, la différence est là, effectivement, dans. J'ai envie de dire une espèce de maturité. Alors j'espère, j'en sais rien, je pense que si je me retrouve dans 20 ans, je pourrais peut-être ça complètement débile, j'en sais rien. Mais quand je relis mes premiers textes, je suis effarée par la naïveté des premiers textes. En plus des problèmes d'écriture, en fait.
Je pense que tout le monde peut avoir le problème de la naïveté, puisque effectivement, quand on écrit, qu'on n'a pas sorti une roman familial, on a l'impression le nom qu'on imagine est vraiment différent. Et c'est vrai qu'en relisant, je relis assez peu, parce que sinon je rigole, je me rends compte de moi, parce que c'est absolument justement naïf et pas réaliste du tout, pas possible. Et c'est surtout que j'avais beaucoup mal à contextualiser, à créer un contexte, un fond, un monde vraiment complet, vraiment percutant, avec tous les détails qui font que ça a l'air vraiment réaliste et vraiment cohérent. Je me contentais d'écrire l'histoire, de faire les personnages et de faire au fur et à mesure comme ça me donnait. Et du coup, ça manquait énormément de profondeur, énormément de recul. Que j'ai maintenant un petit peu plus d'espère en vos ans. Et le buffet, c'était vraiment très très naïf.
Effectivement, je n'ai pas beaucoup révisionné le terme, mais j'ai du mal à relire mes propres textes, surtout les vieux, parce que les vieux sont mauvais et sont très naïfs. Heureusement, on se dit, j'avais ces idées-là. Et on se demande si on était bête, ou alors si c'était simplement de la naïveté. Puis de temps en temps, il y a. Un petit détail justement qui paraît plus sympa que les autres. C'est que finalement le texte est peut-être un intérêt, mais justement ce détail qu'on va perdre maintenant, on a de l'expérience et qu'on va peut-être utiliser dans un vrai texte qui ne sera pas sacrifié sur le même du premier texte.
Comment êtes-vous venu à penser à l'édition et comment se sont passées les démarches pour chacun d'entre vous pour arriver à un objet libre?
Je suis venue à penser, je crois que ça a été assez naturel, comme je disais, à partir du moment où on commence à faire lire autour de soi, il y a un moment où on développe cette idée autour et on commence à faire lire un vrai lectorat entre guillemets, pas simplement la famille, les amis. Les démarches, ça s'est fait assez naturellement, c'est passé par les nouvelles en fait. Parce que j'écris principalement des nouvelles. Même encore maintenant, mais ça a été les premiers textes publiés, ont été des nouvelles. Et j'en ai soumis quelques-unes avec mon cours. Qui n'ont pas été reprues, mais c'était normal, c'était pas très bon. Et un jour, j'ai écrit un texte, j'avais l'impression qu'il était un petit peu mieux construit, qu'il s'est passé quelque chose de différent. Et je venais de découvrir une revue qui s'appelait Ténèbres, qui s'était arrêtée, qui a repris récemment, qui était une revue spécialisée dans le fantastique. Et en les lisant, je me disais que j'y voyais bien les textes, j'avais envie de publier là un jour. Et je leur ai soumis un jour trois textes. Et ils m'ont rappelé très rapidement en disant qu'ils étaient. Bon, le troisième était un peu anecdotique, mais qu'ils étaient vraiment emballés par les deux. Et par contre, ils n'allaient pas les publier dans la revue, mais dans deux anthologies qui préparaient à ce moment-là. Et puis, c'est passé 2 ans avant que le texte sorte, effectivement. Mais ça a été. Pour moi, il y a eu une brèche entre le moment où j'envoyais des textes pas très loin des concours, et un jour, j'ai une espèce d'intuition que ce texte-là peut-être pourrait marcher. Et effectivement, la première soumission a été la bonne. Il y a eu une question de contexte aussi, puisque c'est la seule revue, le seul support que j'avais sous les yeux qui me semblait correspondre à ce que je faisais. Donc ça n'a pas été envoyé au hasard, c'est que je me sentais vraiment une affinité avec eux. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que le retour soit aussi enthousiaste. Je pensais qu'ils allaient dire que c'était pas mal, mais qu'il y avait des choses à voir. Et limite, j'étais effrayée par leur enthousiasme, en fait, je n'avais pas attendu à ça.
Pour la publication, ça a été assez naturel. Comme je voulais être écrivain, par définition, ça passe par l'édition. Paradoxalement, j'ai assez peu envoyé envoyé des textes à deux auditions. Alors le premier cycle que j'ai écrit, je l'ai envoyé à Rémi Martinez.
Le papa de Tristan Henry est demandé de se rendre à l'accueil le plus rapidement possible. Merci.
Voilà, notre bien commun s'est lancé. Oui, merci. Et donc évidemment, ça n'a pas été. Et ensuite, le second texte que j'ai envoyé, donc c'était les neiges de l'éternel, j'en ai pas envoyé d'autres, mais aussi avec d'autres projets qui ont été terminés. Et mon premier critère, c'était quelle maison d'édition accepte de recevoir les fichiers numériques, imprimés, envoyés par la poste, ça coûte de l'argent. Et encore pas mal, alors de plus en plus, on accepte les fichiers numériques, mais tout le monde a besoin de ces par papier. Et du coup, j'ai envoyé à 3 ou 4 auto-éditions. Certaines ne m'ont pas répondu, d'autres m'ont dit qu'ils changeaient les lignes éditoriales, donc ils ne rentraient pas dans ce qu'ils voulaient faire. Et j'espère qu'il pour la petite anecdote, Jean-Vincent m'a contacté par Facebook parce qu'il n'avait pas mon mail.
J'ai commencé comme Mélanie par les nouvelles, et la première nouvelle qui a été achetée, j'ai commencé à vous mettre, comme je disais, à l'écriture. De façon plutôt sérieuse, plutôt militante. En 2010, j'ai soumis un texte, 3-4 textes. Sur les 3-4 textes que j'ai soumis, il y en a 2 qui ont été retenus. Et mon premier texte retenu est apparu à l'automne 2014. Parce que l'enfer du développement, c'est une réalité dans l'écriture et le temps des éditeurs, c'est pas le temps qui est bon. J'ai publié, je pense, une douzaine de nouvelles. Et puis après, je me suis dit que j'allais faire publier le roman. Parce que effectivement, c'est naturel, on se dit que les histoires plaisent dans le cercle amical, familial, et on les contacte un peu autour, on se dit qu'on peut passer à la vitesse supérieure, et puis pour le roman, et ben, là, je l'ai envoyé plutôt par mail, et j'ai fait un envoi papier, et c'était le plus vite. Et du coup, je reçois un email de François Roux, éditeur des boutons électriques, qui m'a dit bon, j'ai reçu ton manuscrit, est-ce que tu peux m'envoyer le point d'accès? C'est un peu vexé, mais j'avais. Et un mois après, il m'a fait, bon, écoute, ça va marcher, ils sont capables de bosser un petit peu sur l'accord. Il y a rien quasiment rien à voir sur le fond, c'est nickel. Est-ce que ça marche?
Ça, c'est est-ce que vraiment c'est pour nous? Si si on publie, est-ce qu'on essaie de le faire passer pour la fantaisie plus dans notre ligne pour que les gens ne soient pas trop désarçonnés, ou est-ce qu'au contraire on essaie de marquer cette différence pour qu'après les gens vont peut-être complètement passer à côté. Il publie beaucoup moins qu'il publie actuellement, c'était en 2000, il est pas en 2004, donc ça fait un an. On a beaucoup discuté de ça, il y a eu énormément d'hésitation sur comment faire passer ce bouquin qui a priori n'est pas dans la ligne mais qui était un coup de cœur de ça. Et après, les suivants. Après, de manière assez incroyable, j'ai continué à publier chez eux, puisque quand...
En quelques minutes, un live test par équipe va commencer en salle de conférence. Pour toutes les personnes intéressées, merci de vous rendre directement sur l'accueil du pôle GN, les tables rouges situées au fond à gauche. Merci.
Et donc, le livre que j'ai publié juste avant, L'invité de Florent Chevrajol, est un recueil qui s'appelle Saint-Quentin. Chez un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui, qui est les éditions de l'Occident. Et ça, c'est un bouquin qui avait eu un petit succès chez l'Occident, justement, et qui, d'une part, s'était trouvé épuisé à un moment où l'éditeur n'avait pas les finances pour le réimprimer. Donc le livre était devenu indisponible. Et quelques temps plus tard, peut-être 6 mois plus tard, l'éditeur a fait faillite. Et moi, je l'ai extrêmement mal vécu parce que j'étais très attachée à ce livre, et d'un seul coup, il n'existait plus. Et il s'est passé quelque chose d'assez improbable, qui est que Rajon a voulu reprendre ce livre, qui n'était pas non plus dans sa ligne, puisqu'ils ne font pas de nouvelles d'habitude. En tout cas, ils n'en faisaient pas ce qu'on a. Et du coup, j'ai continué chez eux, en étant à chaque fois un peu en marge et un peu... Mais pas seulement chez eux, j'ai l'impression qu'en écrivant des nouvelles et du fantastique, ça fait 15 ans que je suis obligée de me glisser un peu entre les mailles du filet, dans un contexte éditorial où normalement, il n'y a pas de place pour ce que je fais. Ou à différents moments, des gens vont me dire que ça les intéresse quand même assez pour qu'ils m'accordent une place, mais que normalement. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une chance de ne pas avoir eu accès à Internet. Parce que je pense qu'on m'aurait dit assez clairement qu'il n'y avait pas de place pour ce que je faisais. Et c'est ce qu'on m'a dit à mes débuts. Mais t'es sûr que tu ne veux pas écrire plutôt des romans plutôt de la fantaisie, parce que c'est ça que les gens cherchent actuellement. Moi, je ne sais pas faire autre chose, donc j'ai insisté. Et Bragelonne, ça s'est fait comme beaucoup de choses, un peu par un concours de circonstances. Comme assez souvent dans l'édition, j'ai l'impression.
Donc aujourd'hui, vous êtes des auteurs que l'on peut dire confirmés. Quels conseils vous pourriez donner aux gens qui se laissent lancer dans l'écriture ou dans l'édition ?
Merci.
Oui.
Exactement, persévérer. Si je soucie votre rêve, même si des émissions d'édition vous disent à un moment donné, quand on veut écrire, c'est aussi pour écrire, même si c'est pas un sont élus, aussi écrire pour soi.
Moi, il y en aurait deux. Il y en a un qui n'est pas la voie la plus facile, mais qui est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu la chance de ne pas être découragée d'écrire ce que j'écrivais. Un conseil que je donnerais, c'est de ne pas écouter les gens qui essaient de dire que ça ou ça, ça ne marchera pas, et d'essayer de faire plutôt ça. Et de sentir ce que l'instinctivement a envie de faire. Parce que je pense que si on met vraiment ses trucs dans quelque chose et que vraiment on trouve quelque chose d'extrêmement personnel, alors ça va sans doute être plus difficile de trouver sa voie au départ, mais c'est peut-être là qu'on a plus de chances de marquer. Et deuxième conseil, et de simple conscience qui a été donné tout à l'heure, c'est de ne pas partir pied en tête en se disant on lâche son boulot pour vivre de l'écriture, etc. Au minimum, envisager très sérieusement l'idée qu'on ne gagnera absolument rien avec l'écriture et avoir une porte de sortie au cas où. Parce que ça peut marcher, ça arrive. Il y a des succès complètement improbables qui se produisent une fois de temps en temps. Mais il faut vraiment garder en tête cette réalité très concrète qu'il y a extrêmement peu d'argent dans l'écriture.
On est, en fait, on écrit, on apprend beaucoup sur ce qu'on est. C'est très très important de comment vous travaillez, comment travailler sur un projet personnel, parce que c'est pas du tout la même chose que de travailler sur un projet qui va être un projet rémunéré. Parce que si on demande de bosser sur quelque chose pour tous les sous, pour un travail officiel, ça se passe pas pareil, vous n'avez pas les mêmes détails, pas les mêmes questions, c'est pas aussi personnel. Et quand vous retrouvez face à une page blanche, c'est pas une page blanche, c'est un miroir en fait. Souvent, on est dans le
Eh bien, il nous reste quelques minutes avant la fin de la conférence. Si vous avez des questions, Pas de questions.
Je sais qu'il y a de nombreux moments où vous êtes avant tout défini en quelque sorte comme développeur. Et vous avez surtout parlé de ce côté ludique, vraiment le plaisir de créer, que ce soit avant l'écriture de la fantasme ou de mettre en avant, c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu faire, mais que le fond ne réalisait pas. Alors, c'est peut-être une question un peu étrange, mais John le Carré disait qu'il n'arrivait pas à écrire s'il n'y avait pas quelque chose pour provoquer l'idée en lui. Est-ce qu'il y aurait une phrase qui, pour vous, fera toujours le déclic, en tout cas, oui, rien qu'en partant de ça, je peux arriver à faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui évoque suffisamment en vous cette espèce de monde qu'est l'écriture et qui, chaque jour, peut vous donner envie, oui, là, je vais me mettre derrière mon ordinateur, je vais travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui provoque ça?
C'est bizarre, la première chose qui me vient, c'est la peur que ça s'arrête. Moi, l'écriture, c'est un processus très difficile par plein d'aspects. Trouver une idée, ça me prend des mois, c'est long. J'ai toujours peur que ça n'arrive pas, puisque l'idée reste bloquée. Me mettre devant un écran, c'est extrêmement difficile. Mais il y a un plaisir tel qu'à voir un texte terminé, qu'à chaque fois, j'ai une trouille absolue que le suivant ne vient jamais. Et quelque part, ce qui me pousse à continuer, je crois que c'est ça. C'est comme une drogue au bout d'un moment. Mais la peur que ça s'arrête, c'est vraiment une trouille absolue.
Ah, excusez-moi, juste une réaction par rapport à ce que vous avez dit. Donc en fait, vous seriez plus un peu comme, pour utiliser une citation un peu comme René Lescaut qui disait « Quand on trouve dans une idée, voilà la question à laquelle je n'ai plus répondre depuis plus d'un siècle. Et une fois qu'on a une idée, est-ce qu'on aura une autre? Voilà une question que je refuse de poser depuis un siècle. »
Exactement.
Alors, moi, au contraire, j'ai plutôt pas mal d'idées, c'est ça le problème, c'est que j'ai un peu de mal à me rester sur un texte. Et les idées me viennent en fait souvent que j'écoute de la musique. Pas en phrase, mais en flash avec une scène. Parfois, une scène, souvent une scène tout début du bouquin. C'est pour ça qu'à la fin, généralement, j'ai du mal à l'imaginer. Parce que je débute assez facilement. Et là, je me dis que j'ai envie d'écrire. Parce que écrire, c'est une manière de rendre matérielle cette idée et de pouvoir la transmettre.
Fasse l'expérience de ces affaires.